France Culture.
Les Midis de Culture poursuivent leur route à 13h. Je recevrai le chorégraphe, danseur, chanteur François Chaigneau, dont on peut voir plusieurs pièces jusqu'en décembre grâce au Festival d'automne à Paris. Mais avant, il est temps de retrouver le Point Culture. Bonjour Sophie-Catherine Gallet.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et bonjour à tous. La ministre de la Culture, Rachida Dati, a annoncé vendredi son plan de renforcement de la scène française d'art contemporain qui mettrait notamment plus en avant le Centre National d'Art Contemporain, le CNAP. Un point sur l'histoire de cette institution peu connue des Français, sur son rôle aujourd'hui dans le paysage artistique, c'est notre dossier du Point Culture du jour. Laurent Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes sociologue et professeur au département de sciences politiques de l'université parisien Panthéon-Sorbonne et vous avez conduit une étude sur la collection du CNAP. Alors le premier enjeu serait sans doute de rappeler ce qu'est le CNAP, quand est-ce que cette institution a été créée et surtout dans quel but ?
Alors voilà, le CNAP est un établissement public du ministère de la Culture qui a été créé en 1982, qui gère en principe donc un fonds qui est le Fonds National d'Art Contemporain, qui lui avait été créé en 1976. Mais en réalité, c'est une institution plus ancienne que le ministère de la Culture, plus ancienne aussi d'ailleurs que le musée du Louvre, puisqu'en fait, elle succède à l'administration des Beaux-Arts, qui elle a été créée en 1791 et qui sanctuarisait une ligne budgétaire pour les artistes prometteurs. Et donc, en fait, le CNAP soit commande, soit achète des œuvres essentiellement aux artistes vivants. C'est une institution qui a perduré pendant plus de deux siècles, qui a traversé cinq républiques, deux empires, une restauration, et qui a constitué ce qu'on appelle le dépôt de l'État, qui fait circuler des œuvres dans beaucoup de collectivités territoriales, dans les institutions culturelles, dans les deux parlements, dans les administrations nationales, dans les lieux de culte, les églises essentiellement, dans les représentations diplomatiques et aussi dans les musées, par exemple au Musée national d'art moderne ou au FRAC. Donc c'est une institution qui met des œuvres d'art à disposition des autres institutions et qui, d'une certaine manière, s'efface dans le même mouvement. Donc c'est un acteur à la fois absolument central de l'art depuis plus de deux siècles et un acteur assez modeste, puisque effectivement, sa présence est toujours une présence un peu médiée. Et donc, les œuvres qui sont acquises ou commandées par le CNAP ont servi à plusieurs fonctions au cours de l'histoire. Comme je vous l'ai dit, il s'agissait d'abord d'encourager des artistes, des jeunes artistes créateurs, mais il s'agit aussi d'investir dans l'art et de promouvoir, enfin de consacrer des artistes déjà en activité. Il s'agissait aussi effectivement de diffuser l'art auprès du public, mais en dehors parfois des lieux les plus attendus comme les musées qui se sont constitués à la fin du 18e. Donc il y a aussi une fonction éducative, une fonction mémorielle, et dans certains moments historiques, cette collection a servi en fait à aussi faire de la propagande politique dans des moments de l'histoire pour l'Empire ou pour d'autres régimes.
Alors justement, parce que donc à partir de ce que vous venez de dire, il y a l'idée de cette collection qui s'établit au fil des siècles auprès donc d'artistes vivants. Mais comment sont choisis justement les artistes, les œuvres qui composent cette collection? Quels sont les critères? Est-ce que c'est, il y a une idée d'exhaustivité ou plutôt de prendre ce qui correspond au goût du moment, on dira?
Alors ça dépend des périodes historiques, c'est quelque chose qui est difficile d'ailleurs à complètement recomposer dans toute l'histoire, puisque c'est une collection très massive, j'ai pas eu l'occasion encore de le dire, mais c'est une collection qui aujourd'hui contient presque 110 000 œuvres, 107 000 œuvres, 20 000 artistes, et donc il y a des moments en fait historiques assez différents. Depuis les années 80, mais ça c'est une tendance qui existe en fait dans tout le monde de l'art et pas seulement en France, depuis les années 80, les artistes jeunes sont plutôt privilégiés dans des commissions qui sont des commissions qui ne contiennent que des pairs, PAIR, c'est-à-dire c'est des commissions de professionnels de l'art et au fond c'est un système de sélection d'œuvres tout à fait classique qui existe dans d'autres domaines, par exemple au Centre National du Livre. Je tiens à souligner que le CNAP au fond c'est aussi une agence qui a d'autres équivalents dans tous les autres secteurs d'action culturelle. Centre National du Livre, Centre National de la Danse, Centre National du Cinéma, dont l'activité est bien connue et très importante. Et donc voilà, la période depuis les années 80, on peut dire que c'est une période où les artistes jeunes sont plutôt privilégiés, avec des petites variations historiques, mais à d'autres moments, la collection a été plus patrimoniale, et de toute façon, dans son ensemble, c'est une collection très patrimoniale, puisque au fond, l'État a acquis régulièrement des artistes, et on a dans ce gisement de 110 000 œuvres, au fond, plein de découvertes encore à faire, et dont beaucoup sont déjà dans nos musées. Puis je voulais dire aussi autre chose, c'est pas simplement un acteur de commande et d'achat d'œuvres. C'est aussi un acteur de soutien à tous les professionnels du monde de l'art. Donc c'est aussi une institution un peu pilote dans le monde de l'art, puisqu'elle soutient des projets, mais elle soutient aussi les commissaires, les critiques, les galeries, les éditeurs, dans des proportions moindres. Mais en fait, c'est tout l'écosystème de l'art qui est un peu adossé d'une certaine manière au CNAP. Acteur discret, comme je le disais, mais acteur central.
Et donc du coup, pour revenir sur cette collection, est-ce qu'on pourrait dire qu'il s'agit plutôt de construire une archive du présent ou peut-être de construire la mémoire de demain, selon vous ?
Alors c'est difficile à dire, hein. De toute façon, c'est vrai que il y a toujours une dimension d'inconnu sur. On peut pas évaluer la collection au succès ultérieur des artistes. Ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que la collection reflète au fond les diverses tendances de l'art du moment historique où elle acquiert ou commande. Et de ce point de vue-là, c'est une collection. Oui, c'est une collection dont on peut dire qu'elle a archivé un état de la création à chaque période historique, et c'est ce qu'elle continue à faire dans une grande diversité d'œuvres. Hein. Les acquisitions ont un peu baissé après la période du Covid. Là, elles sont importantes. Il y a 1,7 million d'acquisitions par an sur un budget total de 15 millions d'euros. Donc, c'est effectivement plus de 130 œuvres qui sont acquises, données ou commandées dans les dernières années. Il y a eu des moments où il y avait beaucoup plus d'œuvres acquises, mais enfin avec un tel volume, on arrive quand même à effectivement avoir une idée de la création contemporaine. Et puis il y a beaucoup d'artistes nouveaux qui sont acquis chaque année. En ce moment, il y a à peu près 2/3 d'artistes qui rentrent dans la collection, c'est-à-dire qui n'ont pas déjà été acquis. Donc on voit bien que le but de la collection, c'est aussi de photographier la création présente et peut-être future.
Et dans le rapport qui est issu de la mission menée pour analyser les manières de dynamiser la scène artistique contemporaine française, le CNAP semble être donc désigné comme l'institution qui devrait être la chef de file de ce renforcement. Ce rapport préconise aussi un investissement plus affirmé dans l'acquisition d'œuvres d'artistes français. Est-ce que ce serait une redirection du CNAP vers quelque chose qui pourrait s'apparenter à la fois au rôle de la BNF d'une certaine façon, mais aussi qui permettrait de mettre en valeur, de faire rayonner un peu plus ses collections à l'étranger ?
Alors, vous faites mention du rapport qu'a écrit Martin Bettenau suite à la commande de Rachida Dati. Alors, effectivement, une des préconisations, c'est cette préconisation de recentrer l'acquisition sur la scène française. Alors, je voudrais quand même dire quelque chose sur les chiffres un peu généraux. Actuellement, 2/3 des artistes qui sont acquis sont des artistes qui sont actifs sur la scène française. D'autre part, effectivement, si on regarde la collection sur ces 2 siècles et demi, on a à peu près les mêmes proportions. 2/3 des artistes qui ont été acquis sont des artistes français. Comme vous le savez, la scène française, ça a été aussi une scène, c'est une scène qui, encore aujourd'hui, et pendant très longtemps, attire des artistes qui viennent du monde entier. Donc c'est le critère national n'est pas forcément l'excellent critère pour déterminer, disons, ce qui a de la valeur dans l'art contemporain. Donc c'est un art qui est mondialisé, c'est un art où il y a effectivement des gens qui circulent énormément. Donc la question qui se pose le plus, à mon avis, c'est est-ce que le CNAP peut avoir une fonction de rayonnement compte tenu de ses moyens à l'international ? Donc à mon avis, c'est un autre problème en réalité. Je pense pas que ça n'a jamais été en tout cas la mission qui a été assignée à cette institution, c'est-à-dire l'exportation des artistes français les plus connus. Je pense que pour ça, il y a d'autres leviers dans l'action culturelle. Il y a aussi évidemment l'action du ministère des Affaires étrangères. Et donc je crois que là, l'enjeu, c'est plutôt d'articuler la mission du CNAP avec la mission d'autres institutions au sein de l'État.
Merci beaucoup, Laurent Janvier.
C'est moi qui vous remercie.
Suite de l'actualité culturelle, Sophie Catherine, Cathy Mitchell a annoncé mettre un terme à sa carrière à l'opéra.
Oui, c'est dans une interview au Times que la metteuse en scène britannique de 61 ans a déclaré vouloir arrêter son travail lyrique à cause de la misogynie encore trop présente dans ce milieu. Elle raconte par ailleurs avoir subi du sexisme et même parfois de la violence physique à chacune de ses créations pour l'opéra. Alors qu'elle fut longtemps l'une des seules femmes à mettre en scène des grandes productions dans cet univers artistique très masculin, elle présentera donc en novembre sa dernière création, l'affaire Makropoulos, au Royal Opera House de Londres.
Des directeurs de grandes institutions culturelles apportent leur soutien à la présidente du Louvre.
Dans une tribune parue hier dans le journal Le Monde, 57 conservateurs et directeurs des plus prestigieux musées au monde, parmi lesquels le directeur du MoMA à New York, du Prado à Madrid ou encore de la Tate à Londres, ont témoigné leur solidarité à Laurence Descartes. La présidente du Louvre est en effet vivement critiquée depuis le spectaculaire cambriolage survenu le 19 octobre dernier. Les signataires ont déclaré que cet incident aurait pu avoir lieu dans n'importe quel autre musée à travers le globe. Ils rappellent ainsi qu'à partir du moment où un objet est exposé au public, il devient forcément vulnérable, car je cite, les musées ne sont ni des bastions ni des coffres-forts.
Et pour finir, on a appris le nom des nouveaux commissaires du pavillon français pour la quadriennale de Prague.
Oui, et ce sont la scénographe Anouk Mogin et la metteuse en scène Lorraine de Sagazan qui ont été désignées pour représenter la France à la prochaine quadriennale, dont le thème sera « Absence et silence, espace potentiel pour de nouveaux futurs scénographiques ». La 16e édition se déroulera en juin 2027 dans la capitale tchèque.
Alors avant de quitter ce point culture, juste un dernier mot. On vient d'apprendre à l'instant la troisième sélection du prix Goncourt. Alors je vous les cite, Natacha Apana, Emmanuel Carrère, Caroline Lamarche et Laurent Mauvignier. Merci beaucoup Sophie-Catherine et vous, on vous retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.